C'est vrai que j'ai oublié un mot. Merci de passer la soirée avec nous, Hélène Philippe. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Et la tension monte encore à la frontière ukrainienne. Des bombardements dans le Donbass, Kiev et les séparatistes pro-russes s'accusent mutuellement alors que les États-Unis se font solennels à l'ONU. Ils demandent à la Russie d'abandonner la voie de la guerre. Joe Biden craint une attaque imminente et Moscou ne joue plus l'apaisement, nous l'entendrons. Dans l'actualité encore, le retrait français vu du Mali, le procès de l'assassinat du père Hamel. Sa sœur est venue dire sa déchirure. Nouvelle plainte à l'encontre de Jean-Jacques Bourdin. Et puis Antoine Compagnon va faire son entrée à l'Académie française. Et au téléphone sonne Fabienne.
Hélène, est-ce que spontanément vous pouvez citer autant de sportives très connues, très célèbres que de sportifs célèbres et médaillés? Ben faites le test. C'est pour ça qu'on fait un téléphone sonne ce soir. C'est la semaine sport féminin toujours organisée par le CSA et le ministère chargé des sports. Elle est bien utile cette semaine parce qu'en termes de visibilité, les sportives sont toujours à la peine. À vos téléphones 01 45 24 7000.
France Inter.
La guerre des nerfs et de l'information n'en finit plus et la situation pourrait bien être en train de dégénérer franchement en Ukraine. Les États-Unis en tout cas ne croient pas au retrait russe. Ils pensent l'attaque imminente. Le chef de la diplomatie le dit à la tribune de l'ONU et le président américain aussi, juste avant de monter dans un hélicoptère pour un déplacement dans l'Ohio.
Ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas retiré de troupes. Ils en ont rajouté, premièrement. Deuxièmement, nous avons des raisons de croire qu'ils vont trouver une opération prétexte pour avoir une excuse. Toutes les indications que nous avons, c'est qu'ils sont prêts à entrer en Ukraine, à attaquer l'Ukraine. Et j'ai le sentiment que ce sera dans les prochains jours. La voie diplomatique est-elle encore possible? Oui, c'est pourquoi j'ai demandé au secrétaire Blinken d'aller aux Nations Unies, de faire sa déclaration aujourd'hui, il détaillera tout ça. Donc il y a une solution diplomatique, il y a un moyen de s'en sortir. Je n'ai pas prévu d'appeler Poutine.
Joe Biden, traduit par Sébastien Paouré. De fait, si pendant 48 heures on a cru que les Russes cherchaient une porte de sortie, Moscou semble aujourd'hui dans un tout autre état d'esprit. Sylvain Tronchet, bonsoir.
Bonsoir Hélène.
Vous êtes notre correspondant à Moscou, Sylvain. En témoigne ce courrier transmis à Washington qui ne va pas du tout dans le sens de l'apaisement.
Oui, un courrier qui est en quelque sorte une réponse à la réponse des Américains aux exigences russes en matière de sécurité. Une lettre rendue immédiatement publique par la diplomatie russe. Et ce qui frappe, c'est le ton employé par cette diplomatie russe qui constate qu'ils n'ont pas reçu de réponse positive à leurs demandes. Pour mémoire, la non-extension de l'OTAN à l'Est, le retrait des armements stratégiques aux frontières de la Russie et le départ des troupes de l'OTAN stationnées dans les pays de l'Est. Les Russes qui jugent les menaces de sanctions à leur encontre contre-productives, qui contestent avoir envahi la Crimée, contestent avoir déclenché la guerre dans le Donbass et qui accusent les Américains de noyer le poisson, en quelque sorte, en leur proposant de discuter sur des sujets annexes. Le document contient deux paragraphes également en apparence contradictoires. L'un affirme que la Russie n'a aucun plan d'invasion de l'Ukraine. L'autre, qu'au cas où les États-Unis persisteraient dans leur refus, la Russie serait contrainte de prendre des mesures militaro-techniques. Une formulation un peu nébuleuse, déjà employée par Vladimir Poutine et dont le retour semble indiquer que les signes de détente observés ces deux derniers jours n'étaient que des signes et qu'il est vraiment très prématuré de parler de désescalade.
Sylvain Tronchet en direct de Moscou, un regain de tension donc que l'on sent aussi dans l'est de l'Ukraine, la région du Donbass, où depuis 8 ans, la guerre ne s'est jamais vraiment arrêtée entre les séparatistes pro-russes d'un côté et l'armée ukrainienne de l'autre. Thibault Lefèvre, bonsoir. Vous êtes avec Jérémy Thuil. Thibault, à Slaviansk, c'est à une centaine de kilomètres de la ligne de front.
Oui, et les autorités ukrainiennes ont recensé aujourd'hui une cinquantaine de bombardements sur les villes les plus proches de la ligne du front. Des bombardements qui ont blessé 4 personnes, 3 civils et 1 militaire. Mais l'événement majeur, Hélène, qui s'est passé à 9h ce matin dans la commune de Stanitsa Louganska. C'est au nord de la région, à la lisière entre la zone séparatiste et le Donbass ukrainien. C'est un obus qui a traversé le mur du rez-de-chaussée d'une école maternelle, selon les autorités locales et des membres de l'ONG Proliska qui travaille avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. 3 adultes ont été blessés et fort heureusement les 20 enfants présents n'ont pas été touchés. Cette agression pourrait servir de prétexte à une offensive plus intense des forces pro-russes. C'est en tout cas la crainte du camp occidental et de Joe Biden que vous avez entendu tout à l'heure, qui depuis plusieurs semaines soupçonne le Kremlin de vouloir saisir une occasion pour entrer en guerre. De l'autre côté, les autorités de la région séparatiste de Lugansk rejettent la responsabilité de l'attaque sur l'armée ukrainienne.
Thibault Lefebvre et Jérémy Thuil, l'armée ukrainienne qui affronte les séparatistes pro-russes soutenus par Moscou dans ces régions de Donetsk et Lugansk depuis 2014. Un conflit qui a fait plus de 14 000 morts.
D'ici 4 à 6 mois, les 2400 soldats français auront donc quitté le Mali.
Emmanuel Macron a officialisé la fin de l'opération Barkhane, poussée à le faire par la junte militaire au pouvoir au Mali. 3 bases seront évacuées, des tonnes de matériel après 9 ans de présence française dans le pays pour lutter contre les groupe djihadiste. Un retrait forcé, diversement observé par les Maliens, rencontrés à Bamako par Kaourou Magassa.
Lunettes posées sur le front et accoudées sur sa moto, Boubou, livreur, est inquiet du départ annoncé de l'opération Barkhane.
Pour le moment, on a très peu d'informations sur ce qui se passe au nord, mais si les Français partent, le terrorisme peut s'amplifier. Le combattre, ce n'est pas l'apanage d'un seul État, cela doit concerner tout le monde.
Le risque pour lui, c'est que les forces armées maliennes se retrouvent livrées à elles-mêmes. Mais pour de nombreux habitants de la capitale, comme Mamadou, la coopération avec la Russie et celle supposée avec la société Wagner sont brandies comme un motif d'espoir en vue d'une amélioration de la situation sécuritaire.
De 2012 à nos jours, on a eu tellement de pertes en vie. Vraiment, c'est désolant. Quand on te donne une mission, tu failles à ta mission. Donc si ça ne donne pas de résultats, on est obligé de chercher une autre solution.
Pour Abou Bakar, l'armée française n'a pas tenu toutes ses promesses. En près de 10 ans de présence sur le territoire malien, les premiers succès militaires et l'élimination de certains chefs djihadistes n'ont pas permis de mettre fin au cycle de la violence dans le pays.
La France n'est pas notre solution.
Ils ont fait de leur mieux.
Si le président français a décidé de plier ses bagages de chez nous, nous sommes très fiers de ça.
Véritable défi logistique, le retrait français du Mali devrait s'étaler sur 4 à 6 mois selon Emmanuel Macron. Kaourou Magassa depuis Bamako pour France Inter.
Ce retrait français du Mali, ce n'est pas un échec, défend Emmanuel Macron. Si la France n'était pas intervenue, l'État malien se serait à coup sûr effondré, juge le président. Son prédécesseur François Hollande dit tout de même ce soir qu'il aurait décidé d'un retrait plus précoce. C'est aussi ce que disent la plupart des prétendants à l'Élysée. Éric Zemmour notamment, Élodie Forêt, bonsoir.
Bonsoir.
Le candidat d'extrême droite présentait aujourd'hui son programme défense.
Oui, effectivement, Éric Zemmour a lui aussi pris part au concert de critiques dénonçant, je cite, « l'enlisement de la France au Mali ».
Cette décision est la bienvenue, simplement, elle vient beaucoup trop tard. Nous avons réussi avec Serval une opération magnifique. À partir du moment où on a transformé Serval en Barkhane, ça a commencé à se dégrader et à prendre beaucoup plus de risques. Le risque qu'on pourrait appeler de vietnamisation pour les plus anciens d'entre nous.
Pour Éric Zemmour, la France aurait donc dû se tenir à l'écart du conflit, se replier sur d'autres bases et n'intervenir que lors de missions coup de poing contre les djihadistes. Autre sujet brûlant, la situation en Ukraine. Attention à l'instrumentalisation des États-Unis, a dit le candidat qui prêche en revanche pour une relation apaisée avec la Russie et une sortie de l'OTAN.
C'est un acte politique qui nous permettra de montrer que la France redevient une puissance d'équilibre capable de parler avec qui elle le souhaite et de manière crédible. Allier ne veut pas dire aligner. Il faudra refonder notre coopération avec les États-Unis.
Une défiance donc envers les États-Unis et une bienveillance envers la Russie, marqueur de la politique de défense d'Éric Zemmour comme de celle de Marine Le Pen.
Élodie Forêt, au dernier pointage du Conseil constitutionnel, deux nouveaux candidats valident leur parrainage, le communiste Fabien Roussel et Jean Lassalle.
Le journaliste Jean-Jacques Bourdin est donc visé par une deuxième plainte pour agression sexuelle.
Plainte pour agression sexuelle, harcèlement et exhibition cette fois. Information de la cellule investigation signée Géraldine Allo. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez pu consulter cette plainte, Géraldine, celle d'une femme, 60 ans aujourd'hui. Les faits remontent à 1988, donc prescrit. Elle était alors standardiste dans une entreprise de média training où exerçait Jean-Jacques Bourdin, parallèlement à son travail de journaliste à RTL.
Oui, au printemps 1988, celle que nous appellerons Marie, à 26 ans. Elle est standardiste à Medi Training à Neuilly-Plaisance, près de Paris. Jean-Jacques Bourdin y assure des formations auprès de chefs d'entreprise. Marie raconte au policier qu'il l'a d'abord déshabillée du regard un jour où elle portait un short et des collants. Puis, dit-elle, il l'appelle tous les jours au standard en disant qu'il la trouve sexy. Quelque temps plus tard, il lui propose de venir voir les studios de RTL. La jeune femme, qui est passionnée par le journalisme, accepte. Elle raconte dans sa plainte, il se gare près de RTL. Il ouvre sa braguette et sort son sexe en érection. Il est comme en transe. Il m'a dit qu'il adorait payer pour cela et il sort son carnet de chèques. D'après la jeune standardiste, Jean-Jacques Bourdin remplit alors un chèque d'un montant d'argent de 2000 euros. Marie se rappelle, dit-elle aux policiers, de l'encre bleue et de l'écriture en pâte de mouche. Il a alors pris ma main et l'a dirigée violemment sur son sexe, dit Marie, qui se décrit comme apeurée, tétanisée et sort précipitamment de la voiture.
D'autres faits présumés sont dénoncés dans la plainte, Géraldine ?
Oui, deux semaines plus tard, dans les locaux de Medi Training, la jeune standardiste raconte que Jean-Jacques Bourdin s'est masturbé devant elle depuis les toilettes dont la porte restait ouverte donnait sur le standard. Écœurée, la jeune femme finit par s'absenter de plus en plus souvent de son travail avant de quitter l'entreprise. Elle s'exilera pendant 18 ans aux États-Unis où elle a repris ses études et occupé un poste de professeur dans une prestigieuse université. Nous avons contacté l'une des responsables de Medi Training de l'époque. Elle nous confirme que Jean-Jacques Bourdin y assurait des prestations de conseil, mais affirme n'avoir été au courant de rien le concernant.
Jean-Jacques Bourdin qui conteste tous ces faits par la voix de son avocat ce soir. Il parle de curé médiatique et de feuilleton insupportable. Le journaliste actuellement suspendu de ses fonctions à RMC, une enquête préliminaire a déjà été ouverte à la suite de la plainte de la journaliste Fanny Agostini pour tentative d'agression sexuelle. Les plaidoiries de la défense cet après-midi au procès Le Landais. Un peu plus tôt, la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans a été requise à l'encontre de l'ancien militaire accusé du meurtre de Maëlys. « Vous êtes un destructeur de bonheur », a dit l'avocat général. Et au procès de l'assassinat du père Hamel, il y a presque 6 ans, à Saint-Étienne-du-Rouvray, par 2 djihadistes abattus par la police, c'est le témoignage et la force des parties civiles qui a frappé la cour aujourd'hui. Guy Coponnet, le survivant de l'attaque ce matin, et cet après-midi, la famille du père Hamel. Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
Vous avez suivi l'audience, sa sœur Roselyne notamment.
Roselyne Hamel, élégante dame de 80 ans qui refuse le siège que lui propose le président, elle arrive la veille de l'attentat à Saint-Étienne-du-Rouvray pour rendre visite à son frère. À la nouvelle de sa mort, j'ai hurlé, hurlé à m'en déchirer les poumons. Roselyne Hamel se souvient d'un article qui lui est consacré, titré « Ils n'auront pas sa haine ». Elle se tourne vers les accusés. « Oui, messieurs, vous n'aurez pas ma haine parce que c'est avec le don d'amour que Dieu nous a donné que l'on construit la paix ». L'accusé, Farid Kelly, lui répond un peu plus tard « Vous avez mon amour, jamais je n'aurais imaginé que mon cousin puisse attaquer votre frère, cette négligence est criminelle. » Roselyne Hamel se rapproche du box. J'avoue, en émettant un doute sur votre sincérité, que vos paroles me font beaucoup de bien.
Et puis on le disait, témoignage très fort ce matin de Guy Coponnet, gravement blessé dans l'attentat.
À 92 ans, lui aussi suscite l'admiration par sa dignité, son énergie. Le 26 juillet, c'est le jour de son anniversaire. Touché à la gorge, il explique avoir récité en boucle des « Je vous salue Marie » pour ne pas sombrer. Puis, au cœur d'une salle d'audience sur laquelle s'abat un silence de plomb, il récite cette prière qui lui a sauvé la vie. Son rêve, dit-il, ce serait une demande de pardon des absents, les instigateurs. Dieu seul le sait, comme on dit toujours chez nous. Et encore, lance le paroissien malicieux, la salle rit, lui aussi. Puis il redevient sérieux et souffle. Enfin, ce serait merveilleux quand même.
Ariane Grissel avec Georges Thau pour le compte-rendu de cette audience en direct de la Cour d'assises spéciale de Paris.
Il pourrait y avoir 3 fois moins d'hospitalisations liées au Covid à la fin du mois.
C'est ce qu'anticipe l'Institut Pasteur dans ses dernières projections et sur les graphiques, ça donne des courbes qui baissent. Franchement, on peut s'en réjouir. Le nombre de malades en réanimation redescendrait de plus de 3000 à 1800, tout près du seuil que fixe aujourd'hui le ministre de la Santé pour desserrer les contraintes, le port du masque surtout. Dans un mois.
Le choix de la mi-mars n'est pas un choix qui se fait au hasard. D'abord, il repose sur le principe selon lequel plus aucun hôpital n'est obligé de déprogrammer des soins. Ici à Nice, il n'y a plus de déprogrammation liée au Covid. C'est une bonne nouvelle, mais il y a encore beaucoup d'hôpitaux dans lesquels ça n'est pas encore le cas. Ça, je l'ai estimé, c'est entre 1000 et 2000 patients Covid en réanimation. Deuxième critère, il faut que le virus circule le moins possible. Or, vous le voyez, il se divise quasiment par 2 chaque semaine. Donc dans 4 semaines, on aura un taux d'incidence qui sera revenu un taux extrêmement faible, nous permettant de lever les dernières mesures. Donc la mi-mars correspond logiquement pour pouvoir supprimer le masque en intérieur et supprimer le pass vaccinal avec la possibilité peut-être de le conserver dans certains endroits, dans certaines situations particulièrement à risque.
Olivier Véran au micro de France Bleu Azur. Israël annonce la fin de son pass sanitaire dès ce soir et avec ses restrictions qui s'allègent, le dilemme des Covid longs, en profiter ou continuer à se protéger. 5 témoignages à lire sur franceinter.fr. Ce n'est pas le Covid mais un mouvement de grève très suivi dans les transports d'Île-de-France demain qui devrait inciter les franciliens à télétravailler. Les agents de la RATP réclament des hausses de salaire. Tous les syndicats appellent à la grève. 8 lignes de métro seront totalement fermées. Bonsoir Yann Gallic.
Bonsoir.
Alors à la sortie du travail ce soir, beaucoup anticipent l'organisation de demain.
En effet, Jessica travaille dans le centre de Paris. Elle a pris son ordinateur portable sous le bras pour rentrer chez elle en banlieue. Demain, Jessica restera à la maison pour éviter les aléas de la grève dans les transports.
Je suis formatrice d'anglais, mais ça va être télétravail. Microsoft Teams avec mes élèves, c'est planifié.
Est-ce que vous savez comment vous allez vous organiser demain avec la grève?
Moi, je vais en Normandie, comme ça je vais être peinard chez moi. Je monte une boîte, donc je suis chez moi tout le temps, je suis une start-up.
Dorian, lui, doit partir en vacances à Bordeaux. Son train a été annulé et avec la grève RATP, il va finalement choisir le covoiturage.
J'ai trouvé un sauveur, c'est un Blablacar. Du coup, je fais le trajet en Blablacar, mais je dois quand même rejoindre cette personne-là à la gare de Saint-Denis. Encore une fois, Babacar sauve les gens quand la SNCF et la RATP déconnent, quoi.
Et puis, il y a celles et ceux qui n'ont pas le choix et qui ont déjà prévu de se lever beaucoup plus tôt que d'habitude pour aller travailler.
Je prends le bus. C'est ça la solution. Ça marche, le bus. Si c'est possible, j'ai pas le choix. Je suis obligé de travailler quand même.
Vous travaillez dans quel domaine?
À l'hôtel.
Dans un hôtel? D'accord, oui. Donc vous ne pouvez pas faire du télétravail, vous?
Ah non. C'est impossible.
Pas de prévision de trafic pour le bus demain. Seules les lignes de métro automatique, la 1 et la 14, rouleront normalement. Sur les autres, la circulation sera complètement interrompue ou fortement perturbée. La RATP conseille donc aux voyageurs qui le peuvent de repousser leur déplacement.
Un reportage signé Yann Gallic, le télétravail un jour de grève et qui s'est même installé dans la vie de nombreux actifs avec la crise. De plus en plus de salariés réfléchissent à la manière de mieux concilier vie professionnelle et vie privée. Ira-t-on encore plus loin à l'avenir, jusqu'à la semaine de 4 jours, par exemple, la Belgique y pense sérieusement, Isabelle Labéry.
Travailler 4 jours au lieu de 5 tout en gardant son salaire, c'est assez séduisant. Sauf que l'idée n'est pas de travailler moins, mais d'être plus efficace. Le gouvernement belge propose en effet de tout concentrer sur 4 jours sans réduire son volume horaire hebdomadaire. Pour un contrat de 40 heures, par exemple, il s'agirait de travailler 10 heures par jour, du lundi au jeudi. L'objectif est de donner plus de souplesse aux salariés pour concilier vie privée et professionnelle, de rendre le marché du travail plus attractif. Le gouvernement aimerait d'ailleurs également imposer un droit à la déconnexion en dehors des horaires de travail. Les syndicats, eux, ne sont pas très enthousiastes. Ils dénoncent une opération de communication qui permettrait en réalité d'étendre le travail de nuit sans contrôle ou de normaliser les journées à rallonge. Pourtant, dans les pays qui ont déjà tenté l'expérimentation, le bilan est plutôt positif. C'est le cas en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne ou en Suisse. En France, ne rêvez pas, ce n'est pas dans les tuyaux, même si plusieurs candidats à la présidentielle ont fait de la réduction du temps de travail un argument de campagne.
Isabelle Labéry, aux Jeux Olympiques de Pékin, la médaille d'or est bien à la Russie en patinage artistique, mais pas à Kamila Valieva, la favorite, embarrassée par une affaire de dopage depuis une dizaine de jours. La tourmente l'a emportée, elle a chuté à plusieurs reprises et termine quatrième au pied du podium. Et puis une nouvelle plume fait son entrée à l'Académie française. L'écrivain et universitaire Antoine Compagnon, grand spécialiste de la littérature française et de l'œuvre de Marcel Proust, qui nous régale aussi sur France Inter de ses feuilletons littéraires. Le dernier en date, Un été avec Colette.
À l'époque où je travaillais sur les manuscrits de Proust à la Bibliothèque nationale, quand je peinais sur ses paperolles et sa graphie impossible, j'enviais mes voisins devant qui étaient déposées d'épaisses liasses, de belles pages bleues couvertes d'une grande écriture ronde et limpide. Le bleu est la couleur de Colette.
Un été avec Colette, diffusé l'été dernier, et avant lui avec Baudelaire, avec Montaigne, Antoine Compagnon qui fait donc son entrée à l'Académie française. Un dernier mot, si vous espériez encore vivre des nuits parisiennes avec Louise Attaque, les 6 concerts gratuits annoncés par le groupe ce matin pour fêter les 25 ans de leur premier album sont tous complets.
Ah ben,
tant pis pour vous.
Ben voilà, comme vous dites, absolument Hélène, merci beaucoup. À demain, pour nous ça continue, le 18-20, la suite c'est le téléphone sonne, on va parler des modèles de sportiveux qui font rêver et qui donnent une visibilité à leur sport au féminin. Nous sommes dans la semaine sport féminin toujours, qui existe depuis 2014. Et ben, il le faut parce que cette visibilité est toujours en berne. Allez, vos questions 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel avant de se lancer.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Et Elodie Calac, un gros coup de vent sur le nord demain.
Oui, en lien avec la tempête Eunice qui va circuler sur les îles britanniques demain. Alors le vent soufflera violemment de la Normandie jusqu'au Hauts-de-France. Une vigilance orange est en cours. On a 5 départements placés en vigilance orange de la Manche vers le Nord-Pas-de-Calais. Entre le milieu de matinée et la soirée, les rafales pourront atteindre 100 à 120 km à l'heure dans les terres, 110 à 140 sur le littoral. On attend également de fortes vagues, donc prudence. Beaucoup de vent également au nord de la Loire, jusqu'à 90 km à l'heure. Et puis ce sera gris et humide sur les régions du Nord, avec des pluies plus marquées de la Bretagne au Cotentin le matin. Elles gagneront rapidement la Vendée, la région parisienne et le nord de la Seine, puis le nord de la Nouvelle-Aquitaine et le Grand Est l'après-midi, alors que des éclaircies reviendront de la Bretagne vers la région parisienne et le Nord-Pas-de-Calais. Et puis plus au sud, le soleil s'imposera. Avec un bémol pour le sud-ouest le matin, il y aura beaucoup de grisailles.
Et il fera doux, Elodie.
Souvent 6 à 11 degrés demain matin, en effet. Et puis l'après-midi, 11 degrés à Lille, à Rennes, 12 à Paris, 16 à Dijon et à Bordeaux, 18 degrés à Mulhouse, à Lyon, et on ira jusqu'à 20 à Perpignan.
Et merci beaucoup, Elodie Calac, de Météo France.